Décryptualité, semaine 41. Salut Manu.
Salut Luc.
Commençons tout de suite par la revue de presse.
6 jolis articles cette semaine.
IT for Business, l'UE passe ses logiciels open source au crible du bug bounty. Un article de Marie Varanda.
Et donc un bug bounty, c'est une sorte d'enchère à qui va trouver des bugs dans un logiciel donné.
C'est une prime.
Une prime, exactement. Ouais. Et donc, on propose à tous ceux qui le veulent de tester les logiciels de l'Union européenne, ce qu'elle met en avant. Et si vous trouvez des bugs, on vous paye, c'est quand même plutôt sympa.
Il y a quelques années, il y a des gens qui avaient montré qu'on pouvait très facilement espionner les députés européens au travers du Wi-Fi qui n'était pas sécurisé.
Et là, c'est là que le bounty devient important.
Mediapart, la CNIL demande l'arrêt du stockage de nos données de santé par Microsoft, un article de Jérôme Ourdeau.
Donc les données de santé, c'est toute une problématique dont on a déjà parlé plusieurs fois. Et
oui.
Effectivement, on est content de voir que la CNIL se démène pour que les rapatrier sur le continent européen. Parce que là, c'est un petit peu embêtant que ce soit aux États-Unis.
Next Impact, droit voisin de la presse, condamné à négocier, Google pourra parfois ne pas payer, un article de Marc Ress.
Donc, c'est des problématiques de droit d'auteur et d'argent, de gros sous même. Et en gros, l'Europe et les éditeurs de presse européens veulent que Google leur donne de l'argent. Et Google, bizarrement, ne veut pas. Donc, il y a plein de négociations.
Ouais, avec une loi qui tenait pas trop la route, qui était hyper facile à contourner.
Ils l'ont contourné, justement, voilà. Mais là, il y a des gros bâtons qui sont de sortie et des problématiques de tribunaux. Donc Google va peut-être quand même devoir cracher au bassinet.
Dans le domaine, là, j'ai lu un article aux États-Unis, il y a une commission qui a rendu son rapport, une commission officielle, qui a un boulot de 2 ans et qui tacle les GAFAM très très fortement et qui parle de les démanteler. Donc peut-être que l'avenir est un petit peu sombre pour nos amis les GAFAM, j'espère.
Ouh là là.
IT for Business, pourquoi est-il si difficile de trouver des alternatives aux GAFAM? Un article de Patrick Brébion.
Alors, ça parle du SIGREF, une entité dont on a déjà parlé récemment, donc un regroupement des grosses entreprises françaises dans le cadre de l'informatique. Et effectivement, ils sont un peu embêtés avec les GAFA, puis en général, l'informatique en nuage, parce qu'ils sont un peu pieds et mains liés face à des fournisseurs qui sont dominants. Et ça, c'est toujours gênant dans une relation d'entreprise à entreprise.
Oui, puis il y a toute une série d'organisations dans les entreprises, mais également dans les administrations, où on a des solutions de GAFAM qui marchent tout de suite là, et puis on dit on prend ce qui marche, et sur le long terme,
on se
retrouve là où on est. Uzbek Erika, Alice Zénitaire, l'engagement politique est plus facile au passé quand tout est sépia. Une interview de Fabien Benoît.
Donc ça parle d'une auteure, Alice Zénitaire, plutôt intéressant parce qu'elle a fait un livre là, qui met en avant beaucoup de nos problématiques de libre, d'activisme, d'anonymous. Donc c'est plutôt intéressant. J'aime bien voir apparaître ça, parce que c'est dans la culture générale. Et on va avoir dans les librairies, poindre des livres qui parlent un peu de nos sujets.
C'est beau. La Tribune, propriété intellectuelle, la guerre Oracle-Google devant la Cour suprême. Un article de la rédaction.
Alors, un sujet très embêtant, avec des allers-retours. En gros, Oracle accuse Google, donc c'est deux géants qui sont en train de se battre l'un contre l'autre, d'avoir copié des interfaces d'accès de programmation. Et Google qui dit, mais attendez, ça va, c'est des interfaces d'accès, c'est fait exprès pour être copié. Où est le problème? Donc au début, Google avait gagné, ils ont été en appel, ils ont regagné en appel, il me semble. Ils ont été en contre-appel, c'est Oracle qui a gagné. Et ils ont gagné des grosses sommes, c'est des milliards qui sont en jeu. Et là, ils sont en train d'aller en contre-appel, je sais plus quoi. Peut-être
la Cour suprême, oui, c'est
voilà,
ce que dit l'article.
Et donc là, ça monte dans les tours. Il y a des milliards, je crois que c'est 8 milliards qui sont en jeu.
Oui, puis c'est aussi cette question de est-ce qu'on peut mettre de la propriété intellectuelle sur à peu près tout et n'importe quoi.
Notamment sur des points d'accès, quoi. Et moi, en tant qu'informaticien, ça m'embête parce que point d'accès, normalement, c'est fait pour être ouvert. Petit détail, ils ont Trump dans leur cour, c'est-à-dire Oracle, et soutenu par l'administration en place aux États-Unis, ça aide. Alors, notre sujet du jour...
Oui, tu avais un sujet grave et une alerte à aborder, à lancer.
Une alerte de sécurité. Si vous avez acheté un Cellmate, donc il faut que vous fassiez attention et que vous rapprochiez du fabricant pour récupérer une mise à jour du logiciel et faire en sorte de pouvoir le débloquer à loisir. Sinon, ça va être un peu embêtant.
Mais c'est quoi un Cellmate?
Alors, Cellmate, comme son nom ne l'indique pas, c'est une cage de chasteté.
C'est-à-dire?
Alors, une ceinture de chasteté, mais pour les hommes.
Donc un accessoire pour s'amuser entre adultes consentants.
N'est-ce pas?
Mais avec le Cellmate, on a découvert qu'il y a un peu plus que des adultes consentants, puisque toutes les commandes de ce gadget connecté passent par un serveur, et donc chez le fournisseur. Donc c'est l'occasion de s'ouvrir à la sexualité collective sans nécessairement en avoir conscience. Comment on a découvert cette faille?
Il y a un laboratoire de recherche en sécurité qui ont fait des tests de pénétration. Ça ne s'invente pas. et qui ont découvert...
Ça existe réellement en informatique.
C'est ça, c'est des tests de pénétration. Et qui ont découvert que ce serveur pouvait être accessible assez facilement et qu'on pouvait obtenir des informations nom-prénom des acheteurs de l'appareil, localisation du dernier usage et qu'on pouvait le bidouiller de façon à ce qu'il ne bloque les commandes de déblocage. Donc en gros, si vous avez bloqué votre partenaire
mais
sexuel...
C'est un peu le principe, hein.
Oui, bah,
c'est à ça
oui,
que ça sert.
Bah, voilà, mais ça peut se terminer à l'hôpital ou au garagiste du coin, et c'est embêtant quand les appareils sont un peu trop intriqués. Donc moi, je trouve ça amusant parce que on se retrouve avec de l'informatique au cœur des problèmes humains de tous les jours. C'est un peu original. On pourrait dire que le monde moderne nous réserve des surprises.
Et il y a effectivement tout un nombre de cas, et ça remonte à loin, hein, où l'informatique se répandant dans tous les domaines, elle touche nos vies de façon potentiellement très directe.
Il y a des choses qui sont plus au cœur de l'être humain, par exemple.
Bah, le cœur, notamment, et les pacemakers. Donc, on a eu, par le passé, plusieurs affaires là-dessus, et ce qui a été dit à l'époque est probablement toujours valide aujourd'hui. On avait d'une part une hackeuse, jeune hackeuse qui avait des problèmes cardiaques et qui voulait pouvoir accéder au code source de son pacemaker en disant « ce truc-là me maintient en vie, je veux savoir comment c'est fait et je veux m'assurer que ça n'a pas été codé par un gros nul ».
Et effectivement, dans le pacemaker, c'est tellement complexe qu'il y a de l'informatique et il y a des informaticiens qui ont placé ça là-dedans, mais qui ne se sont pas forcément préoccupés de tout ce qu'il y a à faire pour
alors,
le sécuriser.
Alors, eux, ils assurent qu'ils ont tout bien fait comme il faut. Hein,
oui,
parce
bien
qu'ils sont
sûr, oui, mais justement, il faut pouvoir vérifier, valider, s'assurer que... Bah faire des tests de pénétration, quoi. Mais sur un pacemaker, c'est dangereux.
C'est très important. Et il y a eu des articles également par le passé qui expliquaient que des gens, expérimentalement, avaient réussi à hacker un pacemaker, comme quoi les inquiétudes de cette hackeuse n'étaient pas totalement surfaites, et que oui, on a réussi à pirater informatiquement un pacemaker, et donc on imagine ce que ça peut donner.
On sait qu'il y a de plus en plus d'appareils qui sont de cet acabit, par exemple des pompes à insuline qui sont connectées ou connectables à des moyens informatiques. Et puis d'une manière générale, il y a plein de systèmes de monitoring qui permettent de suivre la santé des gens. Bah, ça, on le voit de plus en plus avec les téléphones portables. Mais à la limite du monitoring, c'est moins grave que des outils qui permettent de changer des doses chimiques.
Oui, oui. Alors, on peut imaginer que derrière le monitoring, derrière, il y a des mauvais choix qui soient pris. Après, on peut espérer, mais c'est pas gagné, que le médecin refasse des vérifications à la main. Mais effectivement, dans le cas du pacemaker ou de l'insuline, hein, un mauvais dosage d'insuline, c'est mortel. On peut effectivement, informatiquement, tuer des gens. Mais par contre, ça touche que les gens qui ont un pacemaker ou ces systèmes d'insuline, quoi.
Au moins, bah, quelque part, ils partent en sachant qu'il y a un objet avec eux qui est dangereux et qui comporte une part d'informatique. Malheureusement, bah, cette informatique, elle est souvent privatrice. On n'a pas accès à ces mécanismes, on n'a pas les moyens, même si on n'est pas informaticien soi-même, mais on n'a pas les moyens de demander à quelqu'un qui a les compétences de tester comment ça fonctionne.
Alors l'argument des éditeurs, c'est de dire « mais on veut que ça reste secret parce que si on le rend public, eh bien les failles pourront être trouvées par n'importe qui et exploitées parce qu'en général, il y a toujours des bugs dans du code. »
Alors ça, c'est l'argument de la sécurité par l'obscurité. C'est pas un mauvais argument en soi. Hein. Effectivement, si on ne sait pas comment quelque chose fonctionne, ça peut être utile comme un petit blocage. Et puis il y a plein de choses qu'on n'a pas à donner comme information. Il y a des codes qu'on ne donne pas. Mais la sécurité par l'obscurité, si on n'a que ça comme protection, on n'est pas à l'abri, bah, par exemple, d'un employé pas content qui sort de l'entreprise avec lui la connaissance, ou de gens qui ont juste beaucoup de patience et qui vont tout tester.
Oui, ou de gens qui s'en foutent un petit peu de la sécurité et qui bâclent le boulot, ne mettent pas les moyens, hein, des patrons. Ça s'est vu de multiples fois. Alors, pas toujours sur des équipements où la vie des gens est en danger, mais... Malgré tout, on en a vu sur des choses assez graves, assez sérieuses.
Et ça apparaît dans encore d'autres appareils. Dans les voitures, par exemple, on a beaucoup d'informatique. Et il y a eu des cas de hacking qui se sont faits pour bloquer les freins, par exemple.
Oui, alors il y a eu plein de tentatives et de tentatives qui ont réussi de différentes manières. Et ça fait des années. Hein. Il y a chercheurs en sécurité se sont intéressés à ça très tôt. Et ils ont réussi à pirater des voitures de multiples façons, au travers de l'autoradio.
Oui, il y a du Bluetooth des autoradios qui peut être dangereux.
Tout à fait. En se branchant sur une prise informatique sous le capot, sachant voilà, qu'il suffit juste d'ouvrir le capot de la voiture pour pouvoir brancher un Arduino ou un truc de ce genre-là, un mini-ordinateur qui coûte 30 euros, pour ensuite prendre le contrôle des différents composants, y compris le moteur, les freins, etc., etc. Donc du coup, de la même façon, on pourrait imaginer vouloir assassiner quelqu'un en faisant piler sa voiture ou accélérer à fond au mauvais moment.
Les capacités deviennent de plus en plus importantes. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres moyens de transport qui commençaient à être hackables.
Alors, ça fait longtemps aussi, mais des gens s'étaient penchés sur les avions. Il y a eu des témoignages, notamment du fait qu'un passager avait réussi à accéder à des fonctions critiques de l'avion. Alors, il l'a juste affirmé, donc on n'a pas de preuve absolue. Mais il y a eu d'autres tentatives qui ont été faites, et où en accédant au moins à des prises de l'avion au sol, on peut effectivement pirater le système informatique.
Pour réclamer la confiance dans les constructeurs d'avions sont solides, sérieux, ils font attention à la sécurité, il n'y a aucun risque.
Aucun risque, bien sûr. Alors, il y a le Boeing 737 MAX qui devrait revoler très bientôt, normalement. C'est annoncé pour novembre et cette fois, ça devrait se faire. Et donc, c'est un truc absolument scandaleux où Boeing a très sciemment torché le boulot. Pour raconter vite fait, c'est un avion qui était un vieil avion. Ils ont mis des moteurs modernes qui ont un gros diamètre et du coup, ça rentre pas parce que l'avion est bas sur pattes. Du coup, ils ont fait une configuration qui change l'équilibrage de l'avion, qui modifie plein de choses.
Mais
pour dire l'avion, il n'y a pas besoin de reformer les gens, tout est bien, ils ont mis une sorte de système automatique.
Informatisé.
Pour éviter que les pilotes aillent dans un domaine de vol qui n'est pas possible avec cet avion-là. Sauf que le capteur, il n'y en avait qu'un seul, quand il tombe en panne, c'est le bordel. Et comme les pilotes n'ont jamais été formés à ce système-là, et qu'en plus de ça, il ne marche pas bien et que c'est compliqué tout ça, il y a eu 2 crashs il y a quelques années, tuant 347 personnes, je crois. Donc l'avion est cloué au sol depuis. Mais on voit comment de l'informatique a tué des gens, un paquet de gens, et comment une énorme entreprise
dans laquelle on avait toute confiance.
Voilà, et qui, je pense, a toutes les certifications qualité que tu veux. Hein. Je veux dire, eux, ils sont ISO de tous les côtés.
Ah, ils sont ISO pour des milliers d'années. Hein.
Voilà, ils sont bordés de partout, mais ben, ils ont très sciemment fait ça avec des détails mais incroyables, de type l'alerte qui dit que le système est en panne a été retirée entre 2 crashs et rendue payante, enfin des trucs hallucinants. Il y a des spécialistes d'aviation qui disent que c'est du meurtre. Mais selon les lois, il n'y a pas de souci, ils ne seront pas inquiétés.
Bah, c'est des patrons d'entreprise bien sous tout rapport. Voilà. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de souci.
Alors, dans le domaine aéronautique, comme tout est informatisé, souvent on utilise plusieurs ordinateurs qui analysent les données de vol et doivent être d'accord entre eux pour prendre une décision.
On en prend 3 en général. Comme ça, il n'y en a que 2 qui ont besoin d'être d'accord entre eux au cas où il y a un troisième qui
ne soit pas d'accord. Voilà. Mais du coup, ça montre le niveau de confiance que les ingénieurs ont dans l'informatique. Pour en avion, ils se disent, bon, on va faire 3 systèmes, et qui ne sont pas les mêmes, hein, évidemment.
Oui, parce que avec des systèmes de programmation différents, des systèmes techniques différents. En tout cas, c'est ce qu'ils essayent de faire, officiellement. Voilà.
Et effectivement, aujourd'hui, les avions, c'est de l'informatique qui les fait tourner, et il y a intérêt à ce que ce soit fiable.
Alors, on sait que les voitures, c'est aussi de l'informatique qui les fait tourner. Moi, je pense aux voitures qui vont se conduire toutes seules.
Oui, alors, vont se conduire plus ou moins toutes seules. Celles qui se conduisent déjà toutes seules et qui sont plafonnent dans des camions, des choses comme ça. Alors, dans ce cas-là, c'est pas nécessairement un bug. C'est une limite aussi. Et là, en l'occurrence, les gens qui ont eu ces accidents n'ont pas respecté les conditions d'utilisation de la voiture, hein, c'est-à-dire qu'ils regardaient pas la route.
Ça peut être aussi une limite de programmation. Hein. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu un cas où le constructeur avait diminué les critères.
Alors, c'était l'accident de Uber, qui était un véhicule expérimental, et ça marchait tellement mal, et ils avaient besoin de rassurer leurs investisseurs et de montrer que ça avançait, qu'ils avaient baissé tous les trucs d'alerte pour que la voiture roule, et ils ont renversé une femme, ils l'ont tuée. Donc il y a plein de gens qui sont prêts à faire n'importe quoi avec les critères de sécurité sur des systèmes informatisés qui mettent la vie des gens directement en danger.
Ça apparaît maintenant de plus en plus aussi chez nous, en domotique. Donc quand vous rentrez dans un appartement neuf, il y a de fortes chances qu'une partie de cet appartement soit contrôlée par dans l'informatique. Donc la température, par exemple, le chauffe-eau. Mais les volets roulants, au minimum, hein, ils sont électriques et contrôlés de manière centrale, parfois par téléphone portable. Ça implique que tout ça, ce soit à câble, à un niveau ou à un autre.
Oui, ou alors qu'il y ait effectivement un gros bug, une grosse insuffisance. Et après, il y a d'autres équipements qui sont normalement sécurisés, qui sont notamment tous les chauffe-eau, tous les trucs qu'on brûle du gaz et ce genre de choses, avec le risque de faire du monoxyde de carbone. Alors, effectivement, ce sont des équipements qui sont sécurisés, puisqu'ils vont vérifier que tout marche avant d'envoyer le gaz et d'allumer, etc. Mais on se souvient d'une affaire de Stuxnet, donc une affaire que tu as bien
aimée. Un gros truc, avec des agences de renseignement israéliennes et états-uniennes contre l'Iran.
Voilà, et qui avait réussi informatiquement avec du logiciel à détruire les centrifugeuses de l'Iran qui étaient utilisées pour l'enrichissement de l'uranium, a priori pour faire des bombes.
Mais quand même, tu vas pas me dire que ça pourrait être utilisé dans la maison, quoi.
Je suis pas certain, mais je me dis que si on arrive avec juste du logiciel à détruire et à faire fonctionner du matériel industriel en dehors de ce mode de fonctionnement normal, peut-être que c'est possible de le faire avec un chauffe-eau qui serait connecté à autre chose. Après, c'est de la pure spéculation, mais l'informatique va se répandre de plus en plus dans de plus en plus d'équipements. Du coup, on va nécessairement voir se multiplier les cas où de l'informatique, soit par bug, soit par malveillance, pourront tuer des gens.
Terminator a débarqué à notre époque moderne, mais il se présente sous la forme d'un téléphone portable et il est plus dangereux encore.
C'est dommage parce que j'aurais bien eu pour le podcast. Genre.
Oui, il aurait pu discuter avec nous, ça aurait été intéressant. Donc faites attention.
Oui.
Et puis j'espère qu'on vous retrouvera tous la semaine prochaine.
Oui, tu as l'air un petit peu tendu, Manu. C'est le Covid, ça va pas? Tu as l'air mal à l'aise.
Faut que j'aille me mettre à jour mon appareil personnel. Je me sens un peu coincé. C'est comme si j'avais un piège à souris qui était. Non, voilà. Bon, on va terminer. À la semaine prochaine, tous.
Salut.